Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorciers de la semaine sur Radio Campus. À notre programme, les actus ciné de la semaine avec un point sur le box-office où Un petit truc en plus continue de s'lancer pour rester le plus gros succès de l'année au-dessus de Dune 2, Furiosa de George Miller qui continue son flop en France comme au box-office US. Puis on parlera évidemment des sorties de la semaine avec néanmoins un petit rattrapage sur Abigail, le nouveau film d'horreur des réalisateurs de Wedding Nightmare et Scream 5 et 6. Mais aussi le quatrième Bad Boys, Ride or Die. Et comme d'habitude, on terminera avec quelques recos en bref parmi les autres sorties de la semaine, en salle et sur les plateformes de streaming. À la technique, Hugo n'est pas de nouveau avec moi et Adam n'est pas là non plus pour débattre des films puisqu'ils ont été virés. Ah non, je déconne. Hugo n'a pas pu être là ce soir pour assurer la technique et Adam est accrédité presse pour couvrir les rencontres du cinéma britannique à Abbeville dont il nous fera un débrief la semaine prochaine. Je suis donc tout seul ce soir pour vous accompagner durant cette petite heure ou petite demi-heure, on verra selon le temps, où nous parlons ciné. Voilà. Donc je suis tout seul à la technique, donc il va falloir être un petit peu indulgent avec moi ce soir. Alors, pour commencer cette émission, du coup, un petit point sur le box-office s'impose évidemment comme d'habitude, avec un petit truc en plus qui continue de rouler sur la concurrence pour sa cinquième semaine d'exploitation, avec 1 030 786 entrées pour un cumul de plus de 5,5 millions de spectateurs à l'heure actuelle, donc c'est un vrai carton. Toujours devant Furiosa qui perd 41% de sa fréquentation dans les salles avec 209 193 entrées pour sa deuxième semaine en deuxième position toujours, cumulant presque 568 000 entrées, c'est quand même très maigre. Devant La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume qui clôt le podium pour sa quatrième semaine à 205 230 entrées, dépassant du coup les 2 millions de spectateurs à ce stade aussi. Parmi les sorties de la semaine dernière, on retrouve également Abigail dans le top 5 pour un démarrage à 68 898 entrées. Pour un petit film d'horreur, c'est plutôt moyen. Tandis que Memory de Michel Franco démarre en 7ème position avec 47 981 entrées, alors qu'on en a dit beaucoup de bien la semaine dernière avec Adam. Et que le documentaire La Belle de Gaza, dont on vous a dit beaucoup de bien également, se retrouve en 19ème position malheureusement avec 12 493 entrées pour sa première semaine. Voilà, un box-office un peu triste qui montre néanmoins une grosse fréquentation des salles quand même pour la comédie d'Artus, mais une sacrée baisse surtout pour Furiosa, ce qui est vraiment très triste puisqu'on avait encensé le film évidemment dans notre hors-série sur Mad Max. Et voilà, donc c'est un petit peu triste malgré la présence du coup de blockbuster de plutôt bonne facture cette semaine malgré tout. Voilà, et du coup bah, je vous propose que... attendez, je vais quand même faire du coup une petite publicité une nouvelle fois pour les rencontres du cinéma britannique qui ont lieu ce week-end, où du coup il y a du coup Adam qui est accrédité presse comme je vous disais, mais il y a aussi du coup Teddy qu'on avait reçu du coup pour le hors-série sur Mad Max, qui est présent du coup là-bas, puisque c'est évidemment le responsable de ce festival, il en est l'initiateur. Voilà, donc ça se déroule depuis hier, jeudi 6 juin, et ça se termine dimanche 9 juin. Du coup, si je ne me trompe pas dans les dates, oui, ça doit être ça. Voilà, donc un programme assez divers et varié autour du cinéma britannique à Abbeville. C'est au cinéma Le Rex. Voilà, donc moi personnellement, j'y serai samedi. Voilà, donc je vous invite à y aller, évidemment. Je fais un peu pub pour les amis quand même. Et du coup, on embrasse l'équipe du festival et on leur dit un joli merde. Voilà, pour cette première édition. Voilà, toutes nos pensées vont vers eux. Voilà, donc je vous propose du coup qu'on passe tout de suite aux sorties de la semaine parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire en termes de news cette semaine. Ça va être une petite émission, je pense qu'on va plutôt partir sur une petite demi-heure. Du coup, on passe aux sorties de la semaine. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. Campus, campus, campus. Et du coup, on commence les sorties de la semaine avec un petit rattrapage sur un film de la semaine dernière. Il s'agit du nouveau film du duo de réalisateurs Matt Battinelli-Holpin et Tyler Jallet, derrière Wendy Nightmare et les deux derniers opus en date de la saga Scream. Il s'agit d'Abigail.
recommander vos services. Vous avez l'habitude. On ne donne pas son nom, on ne donne pas d'infos. Et on donne son téléphone.
À qui elle est, cette gamine?
À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins.
Je suis là pour qu'il t'arrive rien.
Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail.
Tu peux m'appeler Joey.
Tu as des enfants?
J'ai un petit garçon.
Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures.
Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, promis juré, tout sera bientôt fini.
Joey?
Oui?
Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver.
Putain!
Merde, faut sortir d'ici.
Je crois qu'elle cache quelque chose.
Ça craint. Ça craint! Eh bah, on a kidnappé un vampire.
Un vampire qui fait de la danse classique.
Ok, comment on tue un vampire?
Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight?
Un pieu en plein cœur. La lumière du jour, ça marche aussi.
D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire. Prêt?
Et autant dire que oui, la danse classique, ça nous fait chier aussi. Du coup, nouveau film du duo de réalisateurs Matt Battinelli-Holpin et Tiger Gillette, dont je ne sais jamais si ça se dit Gillette ou Gillette, enfin bref, je ne sais jamais prononcer leur nom à ces réalisateurs. Du coup, ils étaient déjà derrière leur premier film qui s'appelait Wedding Nightmare, qui était une série B plutôt réjouissante à sa sortie, une sorte de comédie d'horreur avec un concept plutôt original pour le coup, et c'était un film qui était plutôt bien gorace et qui revendiquait déjà une petite vibe un petit peu Scream, voilà, quand même un petit peu Wes Craven, je dirais. Ce qui est destiné quelque part un petit peu à aller sur la franchise Scream, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, puisque personnellement, j'exècre vraiment Scream 5. Voilà, je trouve que Scream 5 est une abomination, vraiment, c'est le pire de la saga pour moi. Il ne s'appelle pas Scream 5, du coup, il s'appelle Scream tout court, parce que justement, Matt et Tyler se croivent tellement des petits malins qu'en fait, ils pensent vraiment faire un hommage sincère à Wes Craven en jouant vraiment les codes du remake et en se foutant de la tronche de cette vibe un petit peu aussi qu'on a eu durant les années 2010 de ces remakes reboots qui avaient le même nom que le film original. Voilà. Donc il y avait vraiment un tacle qui était fait directement au Halloween de David Gordon Green, alors que pour le coup, bah, la trilogie de David Gordon Green, ce sont des bien meilleurs films, je trouve, que ce Scream 5 qui était vraiment, vraiment mauvais, qui se prenait vraiment les pieds dans le tapis avec sa propre satire, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le film se moquait de cette vague-là, mais finalement, ils faisaient comme eux, en fait. Donc du coup, il n'y avait absolument rien d'intelligent là-dedans, c'était juste très bête et con, voilà. Et il y a eu Scream 6, qui m'a un peu réconcilié avec eux et avec la franchise The Scream, puisque d'un coup, j'avais l'impression que ce duo de réalisateurs se débarrassait justement de ce côté hommage dans lequel il s'était un peu empêtré avec le cinquième, pour partir de Woodsboro, pour aller vers New York, et à New York, on avait tout ce truc de voilà, nouveau terrain de jeu, nouvelles règles, et ça donnait quelques séquences plutôt amusantes, comme on a déjà parlé la semaine dernière avec Adam, mais je trouvais que l'ouverture était l'une des plus originales que j'avais vues depuis très longtemps dans la saga. Elle était bien meilleure que celle du cinquième, qui en plus allait directement se moquer de la vague Elevated Horror, où t'avais l'héroïne qui au téléphone disait au tueur, mes films préférés, c'est plutôt Hérédité d'Ari Aster, des trucs comme ça et tout, pour justement se moquer de cette de cette vague un petit peu plus autorisante du cinéma d'horreur, on va dire, mais qui reste quand même des bien meilleurs films que leur Scream, j'ai envie de dire. Voilà, donc bon, avant de se moquer, il faut regarder ce qu'on fait soi-même. Hein. Voilà, du coup, Abigail et leur nouvelle comédie d'horreur avec un concept de base assez similaire à celui de leur premier film, finalement, puisqu'ils se jouaient déjà dans le cadre d'un huis clos assez ludique dans un manoir. Donc là, on a un groupe de criminels amateurs qui kidnappent la fille d'un puissant mania de la pègre russe, dont la simple tâche était d'enfermer et du coup de surveiller cette jeune ballerine, du coup, c'est un truc avec le fait qu'elle fait de la danse classique dans le film, et de surveiller cette jeune ballerine dans un manoir isolé afin de réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Le seul bémol à ce plan, qui était plutôt bien rodé sur papier, c'est que Abigail est un vampire, en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est le pitch de base. Hein. Ensuite, bah, que vous dire de plus ? Bah, nous, on l'a vu avec Adam, du coup. Adam, bon, bah, il n'est pas là, mais je peux vous dire que, pour le coup, il a pas trop adoré. Il préfère largement Wedi Nightmare. Pour lui, il m'a même dit à la fin de la séance, pour vous dire, littéralement, j'ai l'impression que Wedi Nightmare était un incident, en fait. C'est-à-dire que c'était un accident, dans le sens où vraiment, ils ont fait un seul bon film, et puis le reste, ils se sont pété la tronche. On pourrait penser ça. Puisque je pense aussi personnellement que leur meilleur film, ça restera Wedi Nightmare, je pense. C'est-à-dire que vraiment, ils ont fait un coup d'essai qui était plutôt chouette. Et par la suite, ils se sont empêtrés dans une franchise morte et enterrée qu'il fallait pas déterrer, pour le coup, je pense. Elle était morte avec Wes Craven, avec le quatrième, qui était plutôt très intelligent, et il fallait en rester là, je pense. Donc je suis assez content quand même de voir qu'ils partent vers autre chose, qu'ils partent vers à nouveau un film original, on va dire, un film au scénario original, qui ne soit pas une franchise. Et je pense que ça leur va mieux, voilà. Donc moi personnellement j'ai pas détesté Abigail, je dois le reconnaître, voilà, j'ai trouvé que c'était une série B plutôt sympathique, voilà, je trouve que ça n'invente rien, ça n'innove pas pour autant non plus, mais ça reprend le mythe du vampire et ça en fait quelque chose de plutôt plutôt rafraîchissant, voilà, on est sur une espèce de créature vraiment comment dire, c'est une petite fille, mais vraiment on est vraiment sur un adulte dans le corps d'une enfant, en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc un petit peu de, elle va se moquer de cette bande de kidnappeurs amateurs, leur faire comprendre que s'ils sont là c'est pas pour rien aussi, qu'en gros elle va leur faire leur fête, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils le méritent un petit peu, entre guillemets, voilà, je vous en dis pas plus si vous allez voir le film, mais voilà, mais en gros on est sur une créature qui va se venger, enfin se venger de ses ravisseurs, mais pour à la fois pour son plaisir, mais aussi pour de bonnes raisons. Voilà, on va dire, pour pas trop en dire encore une fois. Mais je trouve qu'il y a quelques scènes de meurtre plutôt ludiques. On est sur du slasher un petit peu basique, voilà, finalement, mais c'est un peu ludique quand même. On retrouve cette fascination pour les explosions chez les réalisateurs. Ils aiment beaucoup. Il y avait déjà ça dans Wedi Nightmare à un moment donné, dans le climax, où les personnages explosent, littéralement explosent en sang à l'écran. Il refait ça avec ses vampires dans le film. Je trouve que voilà, même pour investir le mythe du vampire, c'est plutôt sympa de leur mettre, de donner au mythe du vampire leur propre code de leur film à eux, en fait, leur propre vision du gore, on va dire, voilà, entre guillemets. Il y a quand même une petite mythologie, mine de rien, ils arrivent quand même à créer une petite mythologie autour du vampire. C'est pas non plus super original, on va pas se mentir, mais je trouve que ça reste quand même plus rafraîchissant que pas mal de propositions récentes, notamment si on prend toute la vague évidemment de films de vampires, Twilight et compagnie, ou les séries comme True Blood et tout ça, qui sont citées dans le film, hein, dans les dialogues, parce qu'on entend la bande-annonce, mais c'est aussi dans les dialogues du film, parce que évidemment, lorsqu'ils s'emparent du mythe du vampire, les deux réalisateurs veulent quand même faire des clins d'œil un peu méta à d'autres films de vampires dans leur dialogue. Donc on retrouve ces dialogues un peu méta, un peu référence pop culture, mise un peu insérée un petit peu dans les entre deux lignes de dialogue, voilà. Bon, moi pour vous donner encore une anecdote sur Adam, j'espère qu'il écoutera l'émission du coup, mais voilà, mais en gros, pendant le film, je le voyais vraiment par moments soupirer dès qu'il y avait une référence méta à un film de vampire, parce qu'on est dans un film de vampire, voilà. Bon, je trouve que c'est quand même un peu plus digeste, que dans leur dernier Scream, qui était pour le coup justement très indigeste dans les dialogues quand ils faisaient des références méta. C'était extrêmement indigeste. Ça faisait très petit malin. Et voilà, pour le coup, je trouve quand même qu'ils ont fait un petit effort. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu du mal et qu'ils se sont dit, bon, on va pas trop en faire non plus. On va rester humble, entre guillemets, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le film, pour être tout à fait honnête. Et en plus, je suis un peu tout seul. J'avoue que je n'ai pas énormément de choses à dire sur le film. Et puis, il est sorti déjà la semaine dernière, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, bah, je vous encourage quand même à aller le voir, parce que c'est une petite série B, tout comme de la même trempe que leur Wendy Nightmare, véritablement, et je trouve que c'est plutôt sympathique. Faut pas y aller en s'attendant à quelque chose d'extraordinaire, faut pas y aller en s'attendant à un grand film d'horreur, évidemment. Vous allez voir une petite série B bien gorasse avec une gamine vampire qui terrasse un par un tous ses kidnappeurs. Voilà, et le programme est un peu plus simple, mais il est d'autant plus réjouissant, je trouve. Voilà. Donc en tout cas, c'est actuellement encore en salle. Je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Et même Adam, qui n'a pas adoré le film, a quand même au moins, admis que c'était quand même un peu mieux que leurs deux derniers Scream. Voilà, donc c'est moins bien que Wendy Nightmare et c'est un peu mieux que leur dernier Scream. Je suis assez d'accord avec lui, mais peut-être un peu plus réjoui que lui. Voilà. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille d'y aller quand même. C'est en salle au pâté. Voilà, donc je pense qu'on va passer à la grosse sortie de cette semaine, du coup. Il s'agit du nouveau volet de la saga d'action Bad Boys. Et ce quatrième opus s'appelle du coup Ride or Die.
On y va, 5, 4, 3, Marcus ! S'il te plaît, Mike, ralentis un peu.
On est en retard.
J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda.
Allez, va prendre ton soda et rien d'autre.
Ces saucisses sont fraîches.
Elles sont là depuis hier.
J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce.
Ouvre la caisse.
Reste où t'es.
C'est des Skittles que je vois sur le comptoir.
Oui, mais c'est pas à moi.
Si, c'est à lui.
Ferme ta gueule.
Marcus, on se casse.
Il a son flingue sur ma tronche.
Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi?
Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics.
Attendez, vous êtes pas de la police?
Reggie, c'est toi qui as mangé mes snacks?
Non, monsieur.
C'est toi qui les as mangés, hein. Faut que tu te trouves un job.
Je suis un marine, monsieur.
Ben alors, faudrait que t'ailles faire la guerre.
Papa, regarde.
Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années.
Le capitaine Howard est victime d'un coup monté.
En route.
C'est quoi ça?
Il nous envoie un message depuis l'au-delà.
Dis pas n'importe quoi.
Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort.
Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre?
Nouvel opus du coup de la saga d'action initialement réalisée par Michael Bay et produite par Jerry Bruckheimer dans les années 90. Bad Boys Ride or Die, marque le retour de Will Smith et Martin Lawrence dans la peau des meilleurs flics de Miami, McLaurie et Marcus Burnett, qui se retrouvent dans ce nouvel opus piégé et qui deviennent cette fois-ci les hommes les plus recherchés d'Amérique. Voilà, pour changer. On va peut-être recontextualiser un petit peu la saga Bad Boys dans le cinéma américain. Voilà, Bad Boys sorti du coup en 95, si je me trompe pas, et le premier film à l'époque de Michael Bay. Voilà, Michael Bay, c'est un réalisateur qui vient notamment un petit peu du clip à l'époque et tout ça. Il a fait sa présence dans le clip et il arrive dans l'écurie Bruckheimer de la même manière qu'à une autre époque, il y a eu Tony Scott qui est aussi arrivé dans l'écurie Bruckheimer, qui était aussi un réalisateur un peu de clip aussi, même beaucoup de clips avec son frère Ridley Scott avant d'arriver à Hollywood justement. Et donc voilà, les productions de Bruckheimer des années 80-90, ce sont des productions qui vraiment, dans le cinéma américain, mettent en avant une esthétique très clipesque, très marquée, on va dire. Et c'était un peu un renouveau du cinéma d'action. Et Michael Bay a évidemment fait partie de ce renouveau en faisant son premier film, donc Bad Boys, du coup, qui à la base est un... Si on prend le premier Bad Boys, c'est vraiment un buddy movie très classique avec Will Smith qui joue l'espèce de caricature du flic américain très fin, très classe, très droit dans ses bottes. Et Martin Lawrence qui est un peu le gaffeur, le pote un petit peu lourd, le coéquipier qui est beaucoup plus maladroit, on va dire, que Will Smith, et qui est aussi père de famille, etc. Enfin voilà, tout l'humour du premier Bad Boys repose sur ce buddy movie entre les deux, cet écart un petit peu, voilà, assez drôle entre les deux acteurs. Voilà, le premier film était un film très classique. Honnêtement, pour un premier film, c'était sympa, mais c'était pas un grand film. C'est-à-dire que c'est pas avec ce film-là que Michael Bay a vraiment montré qu'il allait un petit peu rester, on va dire, en tout cas que son style de metteur en scène allait rester dans le cinéma américain. C'est plus avec d'autres films comme notamment Rock par exemple, avec Nicolas Cage et Sean Connery, ou même Armageddon, enfin voilà, tous ces films là où il a montré un petit peu sa démesure, son sens du cadre évidemment, mais aussi sa démesure où c'est un réalisateur qui va et qui met les potards à fond. Voilà. On a aussi vu ça avec sa saga Transformers par la suite dans les années 2000, qui est une espèce de saga un petit peu symptomatique du toujours plus, on va dire, dans la franchise hollywoodienne. On est vraiment sur un truc où voilà, si vous prenez le premier Transformers, c'est un film, on va dire, assez... où il y a déjà le style de Michael Bay quand même, où il y a déjà son outrance et tout ça, mais qui est quand même qui reste assez raisonnable, on va dire. Et les suites ne font à chaque fois que surenchérir jusqu'aux derniers, qui sont pour moi des espèces d'expérimentations visuelles pas intéressantes, mais difficilement supportables, on va dire, en salle. Voilà, le dernier qu'il a réalisé en date, c'était, je crois, The Last Night, il me semble, qui doit dater de 2015, un truc comme ça, où là vraiment c'est quasiment 3 heures, et c'est quasiment 3 heures de voitures qui se tapent sur la tronche et où vraiment les oreilles et les yeux n'en peuvent plus. Moi, je me souviens que c'était une séance assez insupportable quand je l'avais vu en salle. Voilà, donc pour moi, ça a été de pire en pire, mais pour certains, c'est de plus en plus fascinant, par exemple. Donc ça dépend des points de vue sur Michael Bay. Mais voilà, par exemple, si on prend Bad Boys 1 reste un premier film, du coup, assez raisonnable, assez classique, un buddy movie assez sympa, mais sans plus. Et on a Bad Boys 2 qui sort en 2003, donc quasiment 8 ans après le premier, donc suite presque un peu inattendue déjà à l'époque, et le deuxième est tout simplement un des meilleurs films d'action qui existent. C'est-à-dire que vraiment, Bad Boys 2, c'est... Alors, quand je dis un des meilleurs films d'action qui existent, ça veut pas dire que c'est un grand film non plus. Encore une fois, attention, je suis pas en train de dire que Bad Boys 2 est un chef-d'œuvre du cinéma, on va pas déconner non plus, mais c'est vraiment un assez bon film d'action qui pousse les potards vraiment à fond, qui fait bien plus que le premier et qui surtout va dans une espèce d'outrance et le film n'a pas peur d'y aller à fond dans la vulgarité, dans la violence, dans l'humour gras, très gras, voire presque un peu limite, hein. Si on voit le film aujourd'hui, il y a certains trucs qui passent un peu moins bien, il y a des blagues un peu homophobes, tout ça et tout. Enfin voilà, on va pas se mentir, c'est un film qui synthétise à la fois tout le bon goût et le mauvais goût de Michael Bay, je dirais, mais il y a vraiment ces espèces de plans qui sont qui brisent toutes les règles, on va dire, du cadre, mais qui en même temps créent à l'écran des expérimentations visuelles assez fascinantes, voilà. Et du coup, cette franchise, elle a été confiée au final au cinéaste belge Adil et Bilal, du coup, qui est un duo de cinéastes qui a aussi œuvré dans le clip, mais qui a aussi beaucoup fini par faire ses faits d'armes à Hollywood. Voilà, ils étaient notamment derrière le film Bad Girl, qui a été finalement annulé par Warner, voilà. Et du coup, ils étaient aussi derrière Bad Boys 3, donc Bad Boys for Life, qui était sorti en 2020, si je ne me trompe pas, voilà. Donc voilà, Bad Boys 3, qui est un espèce de projet qui a beaucoup traîné dans les couloirs d'Hollywood, hein, c'est-à-dire que vraiment, il devait se faire déjà par Michael Bay à une époque, finalement ça s'est pas fait par Michael Bay. Joe Carnahan, qui a fait Le Territoire des Loups notamment, devait être derrière pendant un moment aussi, mais finalement il l'a pas fait non plus. Enfin voilà, c'est vraiment été un projet qui a vraiment traîné, jusqu'à qu'il atterrisse dans les mains d'Adil et Bilal, qui en ont fait un film qui ressemblait à une conclusion de trilogie sur papier, mais qui finalement relance la franchise au final, mais qui singeait un petit peu le style de Michael Bay sans lui arriver à la cheville très clairement, mais qui arrivait quand même à faire des choses assez intéressantes, mais qui était empêtré dans un scénario qui mettait peut-être un peu trop à l'honneur Will Smith pour le coup. Enfin, c'était très lourdeau et Martin Lawrence était un peu en train de la patte derrière. C'était très compliqué à regarder quand même parfois dans les dialogues et tout, mais ça restait quand même assez drôle et il y avait des scènes d'action qui détonnaient pas mal. Voilà, ils prouvaient déjà qu'ils étaient capables de faire du Bad Boys, vraiment. Et là, il y a le 4 qui arrive du coup, où on sent qu'ils sont un petit peu plus à l'aise déjà quand même et qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent maintenant, qu'ils ont un peu les clés de la franchise, ils ont les clés de la maison et ils vont y aller à fond. C'est-à-dire que on sent déjà qu'ils aiment Bad Boys 2. On sent que leur préféré, c'est Bad Boys 2. Et sur Ride or Die, ils y vont à fond. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en termes de cadrage, en termes d'idées de plan, il y a des trucs que, pour le coup, récemment, on n'a pas vu ailleurs. C'est-à-dire que, vraiment, il y a notamment un plan dans le film où la promo a été pas mal mis dessus, a pas mal mis l'accent dessus sur cette technique de montage, enfin cette technique de tournage, pardon, où il y a Will Smith qui a un rail de caméra qui est accroché à son torse, un peu comme un truc de steadicammer, on va dire, et qui, en gros, voilà, fait un plan de on va dire, c'est un plan de FPS dans le film, c'est-à-dire que véritablement, il a ses deux round climax, il a un flingue, et la caméra va on a l'impression que la caméra est collée au flingue de Will Smith, en fait, en gros. Et c'est Will Smith, finalement, sur le tournage, qui manipule la caméra, puisque du coup, le rail est sur son, est accroché à lui, et du coup, il peut tourner littéralement la caméra et mettre ses bras devant l'objectif avec son flingue pour donner une vision FPS. On va dire, voilà, je sais pas si je décris bien le plan, voilà, mais il y avait eu des images, du coup, de tournage qui avaient montré cette technique de tournage, du coup, de cette technique de caméra, on va dire. On dit, voilà, et tout le monde a dit, waouh, oui, Will Smith, il filme même un plan du film et tout, c'est incroyable et tout. Ouais, voilà, donc en gros, c'est, ils l'ont fait sur les deux, ils ont fait sur Will Smith et Martin Lawrence, et du coup, ce sont les deux acteurs qui gèrent la caméra sur ces plans. Et à l'écran, ça donne quelque chose qui est assez intéressant. C'est pas totalement réussi, on va pas se mentir, ça fait un peu, le résultat par moment est un peu grossier, on va dire, à l'image, mais ça donne une idée qui a son petit effet dans le climax, c'est-à-dire que dans la scène en elle-même, ça marche plutôt bien, dans l'espèce de chaos bordélique qu'il y a dans la scène, ça marche très bien. Et il y a vraiment des idées, plans, même aux drones et tout. On sait que récemment, Michael Bay, en plus, il s'est un peu amusé avec les drones, notamment sur Ambulance, qui était assez réussi. Et là, c'est pareil. Du coup, ils vont utiliser les drones pour faire des plans séquences où la caméra virevolte dans tous les sens. Il y a aussi une scène dans un avion où on te filme un crash d'avion avec des plans... comment dire, des plans dans l'avion qui sont assez originaux aussi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une envie d'expérimentation visuelle. C'est-à-dire que véritablement, ils veulent faire ce qu'ils veulent avec leur caméra et ils veulent faire des trucs un peu ouf, on va dire, voilà. Et ça donne à la fois du bon et du mauvais. Ça réussit pas toujours, mais au moins ça a le mérite de donner un truc plutôt audacieux à l'écran et qui ressemble finalement presque un peu à ce qu'aurait fait un Michael Bay, sans encore une fois être du Michael Bay. Mais voilà, mais au moins Michael Bay valide le film puisque, comme pour le troisième film, Michael Bay fait un cameo dans le film. Je vous dis pas quand ni où, il est visible. Si vous avez déjà vu la tête de Michael Bay, vous le verrez. Mais voilà, mais en gros, c'est une manière un petit peu, je pense, pour lui de valider la démarche de Adil et Bilal, du coup, qui sont deux cinéastes belges vraiment intéressants. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que littéralement, ils sont capables de faire deux films Bad Boys qui sont plutôt pas mal. Et en même temps, ils sont aussi capables de faire littéralement une comédie musicale sur Daesh qui a été à Cannes. Voilà, donc voilà, ils ont fait un film qui s'appelle Rebelle, qui littéralement nous raconte littéralement le djihad, en gros, mais sous la forme d'une comédie musicale avec du rap et tout ça. Et l'idée sur papier fait extrêmement peur, et pourtant à l'écran ça donne un truc qui est très réussi. Donc voilà, donc ils sont vraiment capables de choses très sympas. Ils ont aussi notamment réalisé le pilote de la série Miss Marvel. Voilà, donc ils sont aussi des très bons exécuteurs hollywoodiens, ça se voit. Je pense qu'ils ont des producteurs derrière eux et que voilà, ils vont pas non plus contre les producteurs. Je pense que voilà, quand t'as un producteur exécutif qui vient leur voir et qui leur dit oui, bah dans le film il faut que Will Smith et Martin Lawrence aient tous les deux un temps d'apparition à l'écran assez égal, faut pas qu'il y en ait un qui bouffe l'autre, voilà, il faut qu'ils fassent de la punchline et tout ça et tout. Je pense que du coup ils insèrent tout ça dans le film. Donc t'as des scènes où il y a littéralement des scènes de dialogue où tu sens que c'est Will Smith et Martin Lawrence qui contrôlent le film. Donc ça donne des trucs drôles dans les dialogues, hein. Parfois je trouve que la complicité entre les deux marche encore bien aujourd'hui, même si on sent, je pense, que Will Smith est en descente de carrière et qu'il a besoin d'être mis en avant aussi dans ce Bad Boys aussi, encore une fois, dans Red Dead aussi, son personnage est encore mis en avant un peu au-dessus de Martin Lawrence, parce que comme si c'était un peu la saga de Will Smith plus que celle de Martin Lawrence, ce qui est un peu, je trouve, un peu dommage, mais bon voilà. Mais voilà, on sent que Will Smith est en reconquête de carrière. Le gars, il a quand même eu son Oscar et il a mis une claque à Chris Rock le même soir aux Oscars. Voilà, il a été banni pendant 10 ans des Oscars et maintenant sa femme l'a quitté. Je pense que voilà, il a pas une vie superbe, mais il a besoin d'une franchise avec laquelle se relancer, et je pense qu'il utilise un peu Bad Boys pour ça. Voilà, mais en tout cas, malgré peut-être cette guéguerre d'ego à l'écran qui existe un petit peu, mais pas trop non plus, je trouve que Bad Boys Ride or Die arrive quand même à être un quatrième opus qui sent un peu, ça sent la franchise un peu essoufflée, mais en même temps ça reste plaisant à regarder, ça reste du Bad Boys. Voilà, Bad Boys ça n'a jamais été une grande saga non plus, on va pas se mentir, donc c'est une saga d'action correcte. Je pense que les deux films de Michael Bay resteront largement au-dessus, surtout le 2, et Adil et Bilal en ont conscience, et je pense que eux aussi ils aiment le 2, que le 2 c'est leur préféré et ils y font beaucoup de références, et voilà, tant mieux, c'est une espèce d'hommage, et en même temps ils se réapproprient les codes de cette saga pour en faire quelque chose. Voilà, je sais pas si ça lance sur un cinquième opus, voilà, peut-être qu'ils vont continuer encore avec ces deux réalisateurs là apparemment les deux s'entendent, enfin les deux cinéastes belges et Will Smith et Martin Lawrence s'entendent très bien, donc voilà, donc je pense que il y a possibilité qu'il y ait un cinquième opus dans les cartons, à voir. Mais si honnêtement, bah écoutez, si jamais c'est de ce niveau là très franchement, c'est du même niveau que le 3. Donc si c'est, du, c'est de ce niveau-là, moi je dis pourquoi pas. Voilà, ils ont réussi à lancer cette franchise qui semblait un peu morte depuis le 2 quand même. Finalement, ça donne plutôt des bonnes choses à l'écran. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est en salle et je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Voilà. Et parmi les recos de la semaine sur les plateformes de streaming, je voulais vous parler un petit peu d'une sortie Netflix un petit peu événement. Il s'agit du nouveau film d'horreur de Xavier Janss, et c'est un film de requin français, ce qui pour le coup n'est pas commun, on va dire. Voilà. Il s'agit de Sous la Seine.
On a un signal. Trouvé.
En plan Paris.
Qu'est-ce qu'elle fait ici?
Un requin dans la Seine.
Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris?
Pour l'heure, quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures.
Si nous ne faisons rien, votre opération de com' pourrait se transformer en un véritable bain de sang.
Ça va être le massacre.
Film de Xavier Janss, du coup réalisateur notamment de Frontières, très connu pour avoir été une espèce de grosse boucherie sortie dans les années 2000, produite notamment par Besson, qui n'était pas non plus un grand film pour le coup, c'était assez oubliable, mais en même temps ça avait le mérite d'être un truc sacrément gore comme on avait rarement vu en France. Ça avait parti un petit peu de cette vague de films qu'on appelle les French Frayers, qui étaient des films dans les années 2000, début années 2000, qui étaient un peu vus comme le renouveau du cinéma de genre français, où on avait notamment Martyr de Pascal Laugier, Frontières donc, de Xavier Janss, voilà. Ces films-là qui arrivaient d'un coup avec une espèce d'envie de faire du très très gore à l'écran en France, voilà. Ça n'a pas totalement marché, ça a été un peu tué dans l'œuf, malheureusement. Mais voilà, mais ça fait partie d'une vague qui, historiquement parlant, est assez importante et sans laquelle n'existerait pas la vague de cinéma de genre qu'on connaît maintenant aujourd'hui avec le succès qu'elle a aujourd'hui, en fait, voilà. Xavier Janss, notamment, était revenu l'an dernier avec un film, un espèce de polar hardboil ultra-violent qui s'appelait Farang, qui avait pour mérite vraiment d'avoir des scènes d'action absolument étourdissantes. Voilà, Xavier Janss qui a bossé sur la série, en fait, Gangs of London, qui était une très bonne série d'action que je vous conseille vraiment, et qui avait du coup travaillé avec Gareth Evans. Gareth Evans, qui n'est autre que le réalisateur de The Raid 1 et 2, du coup, qui sont aussi de très bons films d'action, voilà, qui avaient un peu réinventé le... apporté un vent de fraîcheur que réinventé, je dirais, le genre du film d'action ultra-violent, avec notamment cette technique qui consiste à faire des prévises pour des prévisualisations des scènes d'action avant qu'elles soient tournées, qu'elles sont chorégraphiées à l'avance, et vraiment, le plan est exécuté vraiment au millimètre près par rapport à ce qui a été prévu, véritablement, et ça donne parfois des sacrés scènes d'action, des morceaux de bravoure, des plans séquences assez fous, voilà. Dans The Red c'est le cas, dans Farang aussi il y en a quelques-uns qui sont très bons, voilà. Xavier Janss s'était fait un petit peu du coup un disciple de Gareth Evans sur Farang, et du coup c'était littéralement son meilleur film, hein. Vraiment, c'était vraiment le meilleur truc qu'il avait fait, mais en même temps c'est pas extrêmement difficile non plus, parce que avec toute la sympathie que j'ai pour Xavier Janss, qui est très intéressant, qui est aussi un très bon producteur pour le coup aussi. En tant que producteur, il a de très belles démarches. Voilà. Mais voilà, en tant que cinéaste, on va dire qu'il y a à boire et à manger dans sa filmo. Et Farang faisait partie du très bon, voilà, du haut du panier, très clairement. Frontière fait partie du bas, je dirais, malheureusement, même si l'ambition était là quand même derrière ce film. Et du coup, il revient avec Sous la scène, qui est une production Netflix qui investit le genre du film de requin. Pour nous raconter littéralement qu'il y aurait un requin dans la scène, hein. C'est-à-dire que le film pour le coup est très actuel dans ce qu'il raconte, puisque ça se passe durant en pleine période d'un triathlon qui a lieu à Paris en amont de l'accueil des Jeux Olympiques, du coup, donc je pense que c'est un peu plus actuel. Et du coup, au casting, on retrouve Bérénice Bejo, qu'on a pu voir notamment dans WSS 117, pour citer son rôle le plus connu, mais aussi dans d'autres films évidemment, mais et Nassim Ilyes qui était dans Farang, du coup, qui était le héros de Farang. Voilà, et du coup l'une joue une espèce de chercheuse, du coup, qui est là pour en gros faire des recherches sur sur les requins et sur et qui est dans une démarche un peu écologique évidemment, et qui du coup découvre que littéralement l'un des requins qu'elle piste depuis pas mal d'années s'est retrouvé par on ne sait quel hasard en fait littéralement sous la scène. Et Nassim Ilyes joue un flic qui longe les quais de Seine, on va dire, pour arrêter les gens qui vont se baigner avec des canoës ou des voilà. En tout cas, le film donne une très belle image de la police française pour le coup. C'est un peu étrange, et aussi le film donne à la fois une belle image de la police française, mais en même temps fait un joli tacle à Anne Hidalgo, puisque littéralement c'est pas elle du coup dans le film, littéralement c'est pas son nom, mais il y a une espèce de maire de Paris dans le film qui est vraiment l'archétype de la blonde connasse, voilà, en gros. Et on pourrait croire que c'est le portrait d'Anne Hidalgo quasiment, donc c'est très drôle pour le coup. Mais voilà, on a à la fois un petit tacle envers elle et en même temps on a un joli portrait de la police française pour le coup, parisienne, voilà. Donc c'est assez intéressant, mais vraiment qui sont très gentils avec les SDF, tout ça, adorable, vraiment, c'est très étonnant, mais bon. Voilà, mais c'est pas la seule caricature qu'on a dans le film, hein. Voilà, évidemment. Mais du coup, voilà, le principe de base de Sous la scène est très très simple. C'est vraiment un requin qui se balade sous la scène et ils vont devoir essayer de faire en sorte de protéger la population de ce requin et en même temps de protéger également le requin pour le faire partir de la scène, littéralement, pour qu'il retourne là d'où il vient, puisqu'en fait, comme il n'est pas dans son milieu naturel, bah forcément, il est pas très bien. Et du coup, bah, il a tendance, du coup, quand il est pas très bien, à bouffer des gens. Littéralement. Du coup, sous la scène, ça, sur le papier, ça avait tout, mais alors vraiment tout, pour être une vraie bonne série B, qui investit un genre qui est pas commun dans le cinéma français. Au final, bah, ça donne un espèce de thriller du dimanche soir mixé avec un tract écolo très maladroit, avec en plus des caricatures d'écriture qui sont assez terrible. On a même le droit à la caricature de deux adolescentes écolo, lesbiennes. Enfin, je trouve qu'on est vraiment sur un archétype de personnage assez grossier en termes d'écriture. Ça me surprend même de Xavier Jeance pour le coup, genre vraiment. Je sais pas s'il est au scénario, mais si c'est le cas, c'est un peu dommage quand même. Le personnage de Bérénice Bejo, on est aussi sur un archétype de personnage où elle a évidemment un deuil à faire, c'est-à-dire qu'évidemment au début du film, la première scène du film, c'est une scène de trauma, c'est une scène où on découvre que du coup son équipe en fait de recherche s'est fait décimer en mer par des requins, et parmi eux, bah, pas de bol, il y avait évidemment son mari, voilà. Donc forcément elle est en deuil, donc du coup elle ne veut pas dans un premier temps se confronter à ce problème qu'il y aurait un requin sous la scène lorsque les deux adolescentes écolos viennent la voir pour lui dire voilà, le requin que tu pistais depuis un petit moment, bah, il est peut-être sous la scène, etc. Et tout. Puis elle lui dit, ah, bah, non, arrêtez vos conneries, voilà. Et puis non, laissez-moi tranquille, je veux plus avoir affaire à ça, etc. Et tout. Et finalement, bah, évidemment, elle va y retourner et tout ça. Et évidemment, elle va aider les deux adolescentes à essayer, et le policier, du coup, je vais parler à Simias, à essayer de sauver ce requin et en même temps de protéger, du coup, les humains aussi. Donc voilà, donc ça, en fait, sur le papier, le scénario s'empêtre, un peu comme moi là dans l'émission, s'empêtre un petit peu dans une écriture vraiment maladroite. C'est mal écrit, les dialogues sont imbitables, du coup c'est mal joué, évidemment, alors que Bérénice Bejo et Nassim Ilyes sont plutôt des bons acteurs en soi. C'est pas des mauvais acteurs du tout, ils ont déjà été très bons, c'est juste que là, les dialogues sont tellement mal écrits et pas naturels, tout sonne faux, donc du coup évidemment à l'écran ça donne quelque chose qui ressemble presque plus à un nanar finalement qu'autre chose. Mais malgré tout, Xavier Jeance n'a quand même pas perdu la main pour orchestrer, on va dire, quelques scènes un peu gorasses avec son concept, on va dire. Il y a notamment une scène en particulier dans les catacombes, du coup, les catacombes inondées, on va dire, les catacombes sous l'eau. Évidemment, les requins, il faut qu'ils trouvent un endroit pour aller, un endroit pour aller dormir dans leur un petit nid, on va dire, entre guillemets, dans Paris. Et du coup, évidemment, où est-ce qu'ils vont trouver leur petit nid ? Dans les catacombes, forcément. Et on a droit à une scène à un moment donné avec des écolos pas contents qui veulent aller voir de plus près les requins dans les catacombes. Sauf qu'évidemment, ça va pas se passer comme prévu puisqu'ils vont littéralement aller fouiller dans le nid du requin. Donc c'est le truc à pas faire. Et ça donne une scène qui est franchement plutôt bien, pas mal. Enfin, vraiment un truc bien gore où vraiment on a de l'humain qui se fait bien bouffer. Voilà. Ça donne des saillies bien violentes, bien sanglantes pour le coup. Et voilà, on a droit à quelques scènes comme ça et un climax qui se déroule du coup pendant le fameux triathlon où enfin, dans ces moments-là, on se dit ça y est, le film décolle un petit peu. Et embrasse enfin son concept pour aller vers la série B rigolote qu'il aurait dû être depuis le début. Sauf que malheureusement, ça arrive au bout d'une heure de film sur 1h40 à peu près, donc ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour exploiter le concept à fond, pour aller vraiment dans le gore. Et au final, on se retrouve sur un espèce de film qui passe complètement à côté de tout le principe du film de requin, en fait, de faire un truc bien violent. Et finalement, ça donne même pas une série B, quoi. Ça donne juste un gros nanar. Un gros nanar, véritablement, mal écrit, mal joué, qui ressemble plus à un tract écolo maladroit qu'à une vraie série B avec des requins qui des requins qui littéralement sont sous la scène à Paris, quoi. Je veux dire, avec ça, comment ne veux-tu pas faire une série B, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ça me déçoit presque de Xavier Jean, qui, pour le coup, est pourtant connu plus pour être un réalisateur qui aime le gore, voilà. Donc je trouve ça un peu triste. C'est sur Netflix, voilà. Donc c'est pas vraiment une reco pour moi, pour le coup, c'est plus une déroco, mais je vous dirais éventuellement que si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez toujours le regarder, et au moins il y a quelques petites scènes un peu gore qui peuvent vous faire passer un moment pas trop mauvais, mais ça reste quand même globalement pas très bien. En plus, ça annonce apparemment, selon la fin, comment on l'interprète, ça annonce potentiellement des suites, donc ça pourrait devenir une franchise, je sais pas, peut-être qu'on aura droit à Sous la scène 2, le retour, je sais, enfin voilà. Mais, à voir, mais en tout cas, je dirais, c'est sur Netflix, donc vous pouvez, si vous avez Netflix, regardez-le pour faire votre propre avis, mais c'est pas non plus une reco, c'est plus une déreco, on va dire, voilà. Mais du coup, dans les recos, en bref, que je peux faire avant de terminer cette émission où je suis en solo, j'ai terminé la série Shogun, voilà, sur Disney+. Je reparle encore de Disney+, j'aime pas parler de Disney+, mais voilà. Mais la série Shogun, elle est très bien. Elle est vraiment très bien, c'est la meilleure série de l'année, clairement pour moi, pour l'instant en tout cas. C'est super, il y a Sanada, Hiroyuki Sanada, je veux pas écorcher son nom, acteur japonais du coup qu'on a vu dans John Wick notamment, voilà, qui c'est un peu l'acteur japonais qu'on embauche à Hollywood souvent, mais qui là dans Shogun joue intégralement en japonais, voilà. Il y a un personnage de traductrice qui vient traduire littéralement tous les dialogues, traduit à l'écran les dialogues de Sanada pour l'acteur, enfin pour le personnage du britannique qui est piégé là-bas du coup. Suite à son navire qui s'est échoué sur l'île du personnage de Sanada, du coup. Voilà, donc c'est une espèce de fresque dans le Japon féodal, politique, historique. On pourrait dire que c'est un peu le Game of Thrones japonais, si on va dans les grosses caricatures, parce que c'est plutôt bien violent, c'est plutôt, assez méchant, assez politique, assez, voilà, enfin, on est sur vraiment une histoire de prise de pouvoir, en fait, littéralement, et c'est pour le coup assez super, assez jouissif, c'est en 10 épisodes, ça se regarde assez facilement, c'est très bien joué, pour le coup, et ça annonce plus ou moins une saison 2, voire une saison 3, apparemment, de ce que j'ai entendu dire, alors que pourtant, ça aurait pu être une mini-série. Mais ça a finalement dévié plutôt sur une série à plusieurs saisons. Voilà. Mais en tout cas, on est sur une fin ouverte qui peut laisser possibilité à d'autres saisons. Mais je me demande ce qu'ils vont en faire quand même. Voilà. Mais en tout cas, la première saison en l'état est vraiment très bonne. Donc je ne peux que vous la conseiller. Voilà. Et parmi les autres sorties en salle que je n'ai pas pu voir mais que je vous conseille quand même d'y aller parce que la proposition a l'air quand même assez intéressante, il y a En attendant la nuit, film de genre français qui a été, il me semble, primé à Gérardmer. Voilà, c'est en salle aussi, il y a quelques séances à Amiens au Pâté. Donc bah, je ne peux que vous conseiller d'aller soutenir une proposition de cinéma de genre français tant qu'il y en a une, voilà. Peu importe sa qualité en fait, c'est-à-dire que le geste de faire un film de genre français est suffisamment, je dirais pas rare puisque maintenant ça commence à ça y est, ça s'est plutôt démocratisé maintenant, mais je dirais que ça vaut toujours le coup d'aller voir une proposition de genre français. Voilà, en gros, même un truc comme Sous la Seine qui est franchement assez raté, bah, je trouve ça quand même réjouissant de voir une proposition de film de requin en France. C'est quand même tout à fait réjouissant. Voilà, donc voilà, je vous conseille d'aller vous faire votre avis sur En attendant la nuit, qui est aussi en salle. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire du coup pour cette semaine. Et voilà, Parlons Ciné, c'est fini pour cette semaine. Je remercie quand même Hugo qui, même s'il n'est pas avec moi à la technique ce soir, et bah, il sera quand même là au montage après j'aurai enregistré cette émission. Voilà, donc je le remercie pour ça. Je ne remercie pas du coup Adam de m'avoir laissé cette semaine pour aller aux rencontres du cinéma britannique à Abbeville qui se tient pour rappel au Rex. Ça a commencé jeudi 6 et ça finit dimanche 9 juin. Vous avez encore tout le week-end pour y aller. Allez-y, il y a une très belle programmation. Et je ne peux que vous encourager du coup à y aller. Voilà, tout simplement. Et j'espère en tout cas que le festival ça se passe bien pour Adam et pour Teddy. Et Adam nous fera un débrief la semaine prochaine évidemment sur le festival. Et il sera également là pour me parler avec moi des sorties de la semaine prochaine. Ça sera un petit peu mieux que moi solo quand même, je pense. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie également, vous, chers auditeurs, d'avoir été de nouveau à l'écoute cette semaine sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.